Bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture. Dans cet épisode, nous parlerons des mobilisations, manifestations, grèves dans l'éducation nationale en nous posant une question toute simple. Ces mouvements obtiennent-ils des résultats ? Éducation, est-ce que la lutte paye ? Nous allons prendre deux exemples dans l'actualité pour essayer de comprendre ce qui se joue quand on se mobilise pour l'éducation. Depuis décembre 2023, et nous l'avions évoqué dans l'émission que nous consacrions aux résultats de l'enquête PISA sur le niveau de l'école en France avec une professeure de collège, les syndicats d'enseignants, les fédérations de parents d'élèves et des élèves de Seine-Saint-Denis sont mobilisés pour un plan d'urgence pour ce département. Nous sommes en avril et, fait notable, le mouvement dure dans le temps. Comment et avec quels effets ? Nous allons en discuter avec des enseignants et des élèves. Nous entendrons aussi la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui va défendre son action. Deuxième exemple, depuis décembre, également, le choc des savoirs, voulu par Gabriel Attal, a suscité des contestations. Les groupes de niveau ou groupes de besoin, c'est selon, au collège, font l'objet de nombreux débats. Nous allons y revenir avec nos invités en studio et puis un ancien recteur et directeur général de l'enseignement scolaire, Alain Boissineau. Mais on commence avec vous, Louise Paternoster, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignante en école maternelle dans l'académie de Créteil, dans le 93, co-secrétaire du syndicat CGT Éducation 93, qui est à l'origine du mouvement Plan d'urgence. Plan d'urgence 93, pour commencer, quelles sont ces urgences ?
Alors, pour une petite clarification, c'est l'intersyndicale CGT-FSU-Sud-CNT qui sommes à l'origine de cette mobilisation. Et donc, cette mobilisation, elle est historique, puisqu'elle dure déjà depuis un mois.
Plus d'un mois.
Plus d'un mois, en effet, on est à la sixième semaine. Le départ de feu, ça a été le 26 février. C'est pas n'importe quelle date, puisqu'il s'agissait du jour de la rentrée. On a voulu frapper un coup fort avec un mot d'ordre. Pas de moyens, pas de rentrée pour le 93. Et mardi dernier encore, on était 40% de grévistes. Donc voilà, on est dans une mobilisation qui bat tous les records, puisqu'on a été jusqu'à 6000 personnes dans la rue à Paris, 5000 à Bobigny devant la préfecture, et donc plus encore qu'en 98. 98, c'est une date importante pour nous, puisque c'est l'année où les collègues, à l'époque, ont gagné 3000 postes pour le 93.
Et donc, c'est le mouvement de référence qui a marché.
Tout à fait. 98 et 2015. C'est pour ça qu'on dit qu'on se bat pas en amateur dans le 93, qu'on a déjà une expérience de victoire, et pas de petite victoire, puisque 3000 postes en 98, 1000 postes en 2015, avec la création du second concours. Voilà, on sait qu'en se mobilisant, eh bien, on peut obtenir gain de cause.
Et du coup, vous ne m'avez pas répondu sur les urgences.
Alors, les urgences, elles sont multiples.
Aujourd'hui, les urgences de 2024.
Donc, elles sont multiples, hein, puisque depuis 2015, la situation dans les écoles s'est encore dégradée. Aujourd'hui, le chiffre, c'est 15% d'heures non remplacées. Ça veut dire que nos élèves perdent un mois de cours par an. Ça, c'est le rapport pour 2022, qui est issu du rapport d'une politique injuste qui a été publié en fin mars par Est Ensemble. Alors qu'en 2015, on était à un an de perte de scolarité. Donc, on voit que la situation s'est encore dégradée. Et on l'a chiffré, hein, cette situation, on l'a chiffré en termes de besoins. On a fait une grande consultation de l'ensemble des établissements. Il faut savoir que le département du 93, c'est un département très jeune, qui a 1100 établissements. Et donc, on a plus de 50% de ces établissements qui ont participé. Et donc, ce qu'il faut aujourd'hui pour corriger le tir, pour redresser la barre pour nos écoles, c'est un collectif budgétaire de 358 millions d'euros, 5200 postes enseignants, 2200 postes d'AESH, donc les accompagnantes des enfants en situation de handicap, 1000 postes pour la vie scolaire et des centaines de postes pour le pôle médico-social, puisqu'on a besoin d'assistantes sociales. Dans le 93, on a besoin d'infirmières pour les lunettes, pour les dépistages. Et tous ces personnels, ils sont manquants, parce qu'à la rentrée de 2023, on avait 80% des établissements où il manquait au moins un personnel indispensable. Et ça a été le départ d'ailleurs d'une mobilisation que que mon collègue Julien pourra présenter.
Julien Rennick avec vous, mais c'est pas lui qui va parler tout de suite. Les chiffres, on sait que les besoins sont grands dans le 93 département jeune. On l'a dit, c'est pas le seul département, mais il a ses particularités. On a entendu aussi qu'il ne s'agissait pas que de postes d'enseignants. Et pour ajouter un élément de contexte, ce qu'on a entendu aussi, c'est que de grandes économies budgétaires étaient prévues. Là aussi, ça a été annoncé par Gabriel Attal. Des milliards d'économies qui sont prévues vont-elles toucher ou non l'éducation ? A priori, on sait déjà que des postes d'AED, des postes de surveillants, en gros, devraient être comptés, supprimés. Alors, est-ce que ça va concerner le 93 ? On ne sait pas. J'ai deux élèves dans ce studio à mes côtés et j'en suis vraiment ravie. Vous venez d'un lycée qui a fait beaucoup parler de lui, le lycée Blaise Sandrart. On se repasse un petit son de votre TikTok. Allez.
Je suis prof de français dans le 93. Évidemment que quand j'étais enceinte, mes élèves n'ont pas eu cours de français pendant 6 mois leur année du bac.
Je suis élève à Blaise Sandrart. Bien évidemment que le chauffage ne fonctionne pas.
On est à Blaise Sandrart. Évidemment qu'on n'a pas de plafond dans nos toilettes et qu'on fait pipi dans le noir.
Je suis élève à Blaise Sandrart dans le 93. Évidemment que j'ai des chaises toutes cassées.
Je suis une élève à Blaise Sandrart dans le 93. Évidemment qu'on n'a pas de table pour faire cours.
Excusez-moi, est-ce que vous avez des chaises ?
Bonsoir Clara Boulet et bonsoir Sophia Tizaoui.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Clara, vous êtes en terminale, Sophia vous êtes en première, c'est bien ça ?
Ouais.
Et vous avez l'autorisation de vos parents pour parler ici. Vous êtes engagée dans combats, mobilisations, vous avez participé hein, à cette... Alors on ne vous voit pas je crois Clara, mais vous avez filmé dans ce... dans ce TikTok donc, auquel vous avez participé, qui a beaucoup tourné, qui a fait beaucoup parler, donc c'est une des nouvelles formes de lutte aussi, les réseaux sociaux. Première question toute simple, pourquoi vous engagez en tant que lycéenne ?
Bah parce que je pense que c'est ultra important. Aujourd'hui, je termine mon année, ma dernière année au lycée. J'ai encore ma petite sœur qui est au collège. Je me dis que quand elle va arriver au lycée, moi, j'ai pas envie qu'elle fasse cours dans le même état des établissements. Alors, je sais pas si elle va aller au même lycée que moi, mais elle va rester dans le 93 sans doute. Et tous les établissements de la Seine-Saint-Denis sont dans un état d'insalubrité. C'est horrible. Et surtout à Blaise Sandrart, en tout cas.
Oui, on voit dans la vidéo, je ne sais pas si on l'entendait très bien, qu'il y a des problèmes d'entretien des toilettes, c'est-à-dire pas de porte, des toilettes qui ne fonctionnent pas, des plafonds qui s'écroulent. On a fait une émission l'année dernière sur le bâti scolaire. On a parlé, alors il n'y a pas que le 93 qui a des problèmes, mais... ils sont particulièrement concentrés. Même question, Sophia Tizaoui, élève de première. Pourquoi vous vous mobilisez ?
En fait, je trouve que c'est important. Déjà, il faut savoir qu'on ne mendie pas l'État. On demande à l'État ce à quoi nous avons le droit et ce qu'ils nous doivent, tout simplement. Donc nous, on trouve ça important de... En fait, à un moment donné, on se révolte parce qu'on se dit on a fait toute notre scolarité, pour ma part, dans le 93. Et en fait, on en a juste marre de voir la comparaison entre des lycées... privés qui, eux, sont subventionnés de 30% de plus que nous, les lycées publics. Et en fait, on en a marre de voir ce décalage. Et quand on va sur Paris et qu'on voit que des lycées comme Louis-le-Grand, Henri IV, etc., des collèges comme ça...
c'est des lycées publics.
Oui, des lycées publics.
Les parisiens.
Ont des infrastructures incroyables. Et que nous, on est juste à quelques kilomètres d'eux et c'est totalement l'inverse. En fait, on se révolte et on se dit qu'il faut bouger pour que ça change.
Alors, vous êtes dans des années de scolarité extrêmement importantes, première, terminale. Est-ce que vous n'avez pas mieux à faire ? Parce que c'est votre avenir aussi que vous préparez. Alors, le bac, Clara Boulet, est-ce que vous avez le temps de le préparer ? Je vous ai appelé l'autre jour, vous alliez à une manifestation, c'était mardi.
Ouais.
Comment vous travaillez ?
On m'a posé la question, qu'est-ce que je fous là, en fait, dans les manifs ? Parce qu'on est...
je vous le dis beaucoup plus poliment, mais...
Manifestation, non, mais clairement, on me l'a demandé. Il y a un policier, une fois, il m'a interpellé, il m'a dit ça. C'est compliqué, je ne vais pas à tous les cours, je reste en cours de spécialité. Enfin, voilà, les cours qui comptent pour les épreuves finales. Mais je travaille énormément aussi chez moi. C'est aussi un travail personnel qui est très, qui prend énormément de place dans notre temps quotidien. Bah là c'est les vacances, du coup je travaille. Je rattrape mes cours que j'ai rattrapés, les cours de tronc commun. Hein. Je ne délaisse pas du tout ces cours qui sont tout aussi importants. Voilà, enfin je travaille en plus. C'est clairement ça, mais c'est pour la bonne cause. Voilà.
Même question, Sophia, Tizaoui.
Alors pour ma part, je n'ai plus au cours du tout, que ce soit français ou tronc commun. Mais par contre, j'avais des super camarades de classe déjà qui m'envoyaient tous les soirs les cours. Donc je comptais sur eux, ils m'envoyaient tous les soirs les cours. Moi, derrière, je regardais des vidéos sur Internet qui m'ont aidé. Par contre, je rendais les DM qu'il y avait à faire. Et c'est là où je voyais si à peu près j'arrivais à rattraper. Quand je voyais mes notes, je voyais que j'arrivais à rattraper. Donc je me disais que j'avais une bonne organisation, etc. Et en parallèle, j'avais aussi des profs qui étaient grévistes avec nous et qui, avec toute la bienveillance et la gentillesse, nous aidaient, nous envoyaient des cours en plus, etc. Donc on avait leur soutien et ça, c'est incroyable.
Donc vous pensez que vous arrivez à maintenir votre scolarité?
Oui, là j'arrive à maintenir.
Il y a plein de questions de parents d'élèves que je me retiens un peu de vous poser, parce que je vous considère comme aujourd'hui des militantes, élèves et militantes, donc qui essaient d'assurer ce travail scolaire. Est-ce que vous avez l'impression que ça vous forme de participer à ces mouvements, d'aller dans des manifestations, des AG, des réunions avec des adultes?
Ouais. Moi, déjà, j'ai appris ce que c'était une AG. Je ne savais pas. Parce que moi, avant, les profs, quand ils faisaient grève, j'étais en mode, ils me saoulent. Je rate des cours. Mais en fait, c'est pour moi. C'est pour moi, pour eux, pour leurs enfants aussi, qui font ça. Enfin, c'est pour l'avenir de la jeunesse, parce que, voilà, enfin, pour la jeunesse actuelle, mais pour l'avenir aussi. Et du coup, ça forge, hein. Ça forge énormément, on apprend beaucoup de choses. On découvre aussi... alors moi, je fais des SES, du coup...
Sciences économiques et sociales.
Voilà, sciences économiques et sociales. Du coup, les inégalités, là, on les voit bien. En plus, en terminale, il y a un chapitre qui correspond... Il y a plusieurs chapitres qui correspondent énormément à ce qui se passe actuellement. Et du coup, on approfondit ce qu'on a déjà appris. Nos connaissances, elles se développent. Et du coup... ça nous apprend le militantisme, parce qu'on est quand même jeune. Je trouve que c'est un peu précoce.
Il y a d'autres générations qui se sont formées comme ça, dans les années 60 plus particulièrement, mais aussi dans les années 80 et 90, il y a des gens qui font la politique après. Donc... En tout cas, ça a été validé par le passé comme mode de formation. Évidemment, tous les lycéens du 93 ne sont pas aussi militants que vous. On va s'arrêter sur un cas d'école avec vous, Julien Régnier. Vous êtes professeur d'histoire-géographie au collège Travail Langevin de Bagnolet, toujours en Seine-Saint-Denis. Vous faites partie du collectif des personnels et des parents d'élèves mobilisés pour un plan d'urgence de l'éducation dans le 93 et contre la réforme dite du choc des savoirs. Est-ce que ça compte, première question, est-ce que ça compte beaucoup d'avoir des élèves, des parents d'élèves qui se mobilisent dans ce collectif dont on a entendu avec Louise Paternoster qu'il était intersyndical?
Oui, du coup, en fait, vous avez mentionné que je suis professeur d'histoire-géo, je suis aussi professeur d'EMC. Il se trouve que...
Oui, comme tous les professeurs d'histoire-géographie, c'est vrai qu'on dit plus rapidement et par facilité.
Et que, a priori, le chef de l'État souhaite revaloriser l'EMC. Et je crois que là, on a deux élèves qui nous montrent que... elles montrent l'exercice concret de la citoyenneté. Et du coup, je les félicite pour leur engagement et pour leur engagement de terrain très, très concret. Là, concrètement, elles sont en train de défendre la République, de défendre l'égalité, c'est le mot que vous aviez en bouche. Donc bravo, franchement. En plus, vous avez été des lanceuses et des lanceurs d'alerte. Et ça fait partie véritablement de la citoyenneté. Donc oui, moi je constate que on a des lycéennes et des lycéens qui s'informent et s'engagent. On voit aussi des collégiens qui participent parfois avec nous devant le collège quand il y a un piquet de grève. Ils constatent que leurs professeurs sont engagés. Et puis, c'est très important d'avoir non seulement les élèves, mais surtout les parents d'élèves dans ce mouvement. Et c'est ça aussi qui est un peu inédit là. Actuellement, c'est cette jonction, c'est que tout le monde comprend intimement en quoi ce plan d'urgence il est très 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 important. En quoi le bâti est extrêmement dégradé, en quoi il nous manque des moyens humains, et puis en quoi ces groupes de niveau et ce tri social.
Alors on va y revenir en groupe de niveau, mais en quoi l'école dans le 93 a des besoins énormes et particuliers. Ça date pas complètement de cette année. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça s'est passé pour arriver à constituer un mouvement relativement unifié, c'est-à-dire avec tous les syndicats. Alors, Louise Paternoster, je pense que vous pouvez répondre sur ce point. Comment est-ce qu'on arrive à fédérer les différents professeurs qui pensent pas tous les mêmes choses, qui sont, bah d'ailleurs, Julien, vous n'êtes pas syndiqué au départ, qui n'ont pas tous les mêmes tendances politiques et pas tous aussi la manière de s'engager. Moi, quand je parle de grève à des enseignants, beaucoup me disent ça sert à rien, on perd une journée de salaire et à la fin on n'obtient rien. Alors comment vous avez réalisé cette union dans le 93?
Alors les recettes de la mobilisation, elles sont multiples. Et comme dans tout combat, on a besoin de stratégie. Et la stratégie, l'intersyndicale, on l'a élaborée très rapidement après les grèves de rentrée, à laquelle Julien a pris part avec son collège. Il y avait une quinzaine de collèges et lycées qui ont été mobilisés dès la première semaine, parfois toute la semaine durant. Et le 11 septembre, on a organisé un rassemblement devant le ministère. Suite à ça, l'intersyndicale a dit il faut qu'on puisse réagir. Et ce qu'on s'est dit immédiatement, c'est que la mobilisation, elle va devoir être longue, parce que ce qu'on a à gagner, c'est énorme, c'est immense. Et pour ça, l'impératif pour nous, ça a été, il faut qu'on aille au plus près des établissements pour savoir quels sont les besoins. Et surtout, il faut qu'on donne la parole aux collègues. Nous, on n'a pas besoin de cabinet de conseil, on n'a pas besoin d'audit. On est les experts de notre travail. On sait vraiment ce qui est le plus nécessaire pour faire fonctionner correctement notre service public, accueillir bien nos élèves. Et donc, c'est vraiment ce qui a été au départ de cette consultation. Consultation de tous les collègues pendant plus d'un mois. On a fait des tournées dans tout le département. Le département, il est grand. Hein. C'est pas que Saint-Denis, c'est pas que Montreuil. C'est 40 villes, la Seine-Saint-Denis. Et on a eu une grande participation à cette consultation. Et à partir de ça, on a élaboré des revendications, ce qu'on a dit des doléances chiffrées, centrées autour de deux aspects importants. Le collectif budgétaire pour les moyens humains, 358 millions d'euros. C'est ce que coûte, on est pour un employeur, tous les postes qu'on a chiffrés. Et un collectif budgétaire pour le bâti. Là, on sait que la somme est un peu plus importante. Et ce qui fait partie aussi de la recette, c'est qu'on a un département qui est hors norme. Ça, c'est tous les politiques qui nous le rappellent. Et hors norme, on constate, on a 50% de la population qui est soit élève, soit parent d'élève. Donc l'école, elle est au centre, elle est une préoccupation directe, immédiate de tout le monde. Donc ça, c'est une première force. Deuxième force, c'est on a un département ouvrier, un département métissé, populaire, pour laquelle, pour une grande partie des habitants, l'avenir des enfants, c'est la préoccupation principale. Donc ce qui explique aussi l'engagement important. Aujourd'hui, dans la mobilisation, on est des dizaines de milliers de personnes, enseignants, élèves et surtout parents d'élèves. La semaine dernière, alors que c'était le week-end de Pâques et c'est en plein Ramadan, on était plus de 3000 dans le département à être mobilisés, à plus de 5 semaines de mobilisation. Voilà, c'est très important et je pense que tout le monde attend le 22 avril, jour de la rentrée, pour justement rappeler notre ultimatum. Si on n'a pas de moyens, eh bien, on n'effectuera pas la rentrée. Et l'autre force aussi, c'est le moteur, on en parlait en tout début d'émission, c'est l'intersyndicale. On a une intersyndicale très unie, très soudée, donc je rappelle la CGT, la FSU, Sud et la CNT. Et on a un département aussi qui est très syndiqué. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi mettre en avant et valoriser dans la mobilisation. Le message, il est aussi passé parce que les gens, ils sont déjà préoccupés. Alors déjà, enseigner dans le 93, il y a un aspect militant dans le travail, parce qu'on a des conditions de travail plus dégradées qu'ailleurs.
Mais...
Et en plus, on a des collègues qui sont peut-être plus syndiqués aussi qu'ailleurs, et donc qui ont répondu présent, et surtout, convaincre, établir vraiment une liste de revendications précises, ça convainc, c'est très parlant. Pour nous, les enseignants, pour aussi les personnels, et surtout pour les parents d'élèves. Et surtout, l'autre chose, c'est ce qu'on a mis tout de suite en avant, c'est que c'est finançable. Qu'en fait, nous, c'est une goutte d'eau. 358 millions, c'est à peine 10% de l'investissement de l'État en Seine-Saint-Denis pour les JO. Parce que c'est 3,5 milliards d'euros. Soi-disant, c'est une dépense d'avenir. C'est comme ça que c'est présenté. Bah, nous, on dit, voilà, le plan d'urgence,
donc,
c'est une dépense d'avenir.
Pour et non contre. En fait, c'est pour obtenir quelque chose. Alors ça, c'est une face de la médaille. De l'autre, en décrivant cette école... tout de même démunis, hein, avec de gros besoins matériels et humains. Est-ce que on ne donne pas aussi une mauvaise image, en tout cas une image de la réalité qui est peut-être vraie, mais qui donne pas envie de s'y retrouver dans cette réalité, c'est-à-dire pas envie de fréquenter l'école publique de Seine-Saint-Denis, pas envie de scolariser ses enfants en Seine-Saint-Denis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent en bordure de la capitale qui décident de se scolariser, par exemple à Paris, dans le privé, quand ils le peuvent, etc. Et est-ce que ce que vous présentez, vous, comme très positif, n'a pas aussi sa face plus sombre ? Et Julien, vous pouvez répondre, Julien Régnier, si vous voulez. Je vous appelle Julien, mais on ne se connaît pas plus que ça. Ou Louise Paternoster, ou Clara, ou Sophia, dites-moi.
Oui, effectivement, hein, c'est un tableau qui est très sombre. Il faut se battre collectivement pour obtenir les moyens, parce que c'est pas impossible, rien n'est inéluctable. Concrètement, on peut obtenir ce plan d'urgence, on l'a chiffré, c'est 360 millions d'euros pour justement l'embauche de profs, l'embauche d'AESH, l'embauche de surveillants, l'embauche d'un personnel médico-social qui aujourd'hui fait défaut. Et après, il y a aussi toute la question du bâti, où là, ça se compte en milliards. Mais il faut faire ce travail de lancer l'alerte.
Mais vous savez, l'école, c'est toujours un mélange grand projet républicain, collectif. Ne levez pas les yeux au ciel, Clara Boulet. Mais historiquement et dans le temps présent également, l'école est un projet collectif qui dépend de décisions politiques aussi. Et en même temps, c'est son destin individuel qui se joue. Et pour les parents d'aujourd'hui, on sait combien le diplôme, et vous l'avez dit, Louise Paternoster, dans le 93 et comme ailleurs, c'est dans l'école qu'on fonde ses espoirs. Donc, bien sûr qu'on va avoir envie d'adopter des stratégies aussi individuelles pour tout simplement s'en sortir. Comment est-ce que les gens militants ou non, parce qu'il y a aussi des parents qui ne sont pas du tout engagés, j'imagine, voient ces luttes quand ils s'inquiètent pour l'avenir de leurs propres enfants ?
Là, aujourd'hui, on est dans un épisode d'espoir. On a la bataille de l'opinion, je pense qu'on a gagné. On a un soutien important d'une part de la population du 93. Petite parenthèse, jeudi dernier, lors de l'inauguration de la piscine olympique. Hein. Piscine olympique, d'ailleurs, où nous étions...
J'étais avec un de vos collègues au téléphone.
Très bien, où nous étions présents tous et toutes. On souhaitait interpeller les pouvoirs publics. La piscine olympique, c'est 75 millions d'euros. Voilà, en comparaison de notre plan d'urgence, c'est à peine deux piscines, hein, ce qu'on réclame, ce qui n'est pas grand-chose. Pour une piscine, en plus, qui va être très peu utilisée, je pense que tout le monde est au courant maintenant du scandale de la piscine de Saint-Denis. À l'issue de cette mobilisation, qui était une mobilisation pacifique, hein, où on voulait mettre en avant l'urgence de ce plan d'urgence et des revendications que nous portons, le secrétaire de l'Union départementale Kamel Brahmi, donc le secrétaire de l'Union départementale CGT, a été arrêté. Alors, il a été placé en garde à vue, on a été très mobilisés pendant les 7 heures de sa détention et il a été libéré à l'issue de ça. Alors, ce que ça signifie, c'est d'une part, évidemment, c'est le symbole d'une répression syndicale, mais ce que ça signifie aussi, la présence du secrétaire de l'Union départementale, c'est qu'on a tous les travailleurs et toutes les travailleuses de Seine-Saint-Denis derrière nous. Et ça, c'est très fort. Et je pense que l'espoir qu'a ouvert cette lutte, il est extrêmement puissant. On le sait, il n'y a pas de progrès sans lutte. C'est pour ça qu'on est aussi mobilisés. Mais il se passe quelque chose de hors norme dans cette mobilisation qui nous donne beaucoup d'espoir. Et je me permettrai, dans le caractère finançable, de reprendre les mots d'Emmanuel Macron, si c'est possible, qui, je pense, sont assez éclairants.
Vous pouvez le citer.
Voilà, donc en septembre 2021, voilà, sans la nommer, il était à Marseille. Il déclarait ceci, 174 écoles sont dans un état de délabrement qui rend l'apprentissage impossible. Ce n'est pas une compétence de l'État, mais si je laisse Marseille se débrouiller seule, ces écoles ne seront pas rénovées au bon rythme. Voilà. Alors nous, on se demande.
Voudrait pour Marseille, voudrait pour vous.
Voilà. Alors, nous, on demande directement à Matignon et à notre président. Pourquoi pas la même logique pour la Seine-Saint-Denis, sachant qu'il a déjà à plusieurs reprises clamé son amour, fait des déclarations d'amour pour nos départements en le comparant même de manière presque honteuse à la Californie. Donc voilà, comparer le département le plus pauvre avec l'État le plus riche du monde, c'est quand même osé. surtout vu l'état de l'école. Mais nous, on a regardé la liste des aspects délabrés hein, des écoles à l'époque, parce qu'il y a eu beaucoup de médiatisation, et donc il y a un peu une liste qui a pu se faire, pour comparer si nous, ça nous concerne aussi. Alors, qu'est-ce qui était constaté dans les écoles de Marseille ? La présence de préfabriqués anciens. Bon, ça...
Mais je pense que vous n'êtes pas contre le fait qu'on finance la rénovation des écoles de Marseille ?
Non, on demande juste égalité. Non, au contraire, la rénovation, elle est urgente, c'est 400 millions, plus 650 millions de garanties d'emprunt. Nous, juste la leçon qu'on en tire, c'est qu'évidemment, en Seine-Saint-Denis, c'est hautement finançable. Parce que voilà, nous aussi, on a des rats, et pas que dans les cours. On a aussi des rats à l'intérieur, c'est le cas de mon école. On a des punaises de lit.
École maternelle. Hein.
Ouais, école maternelle. On a des punaises de lit, on a des rongeurs dans 30% des écoles en Seine-Saint-Denis, toilettes délabrées dans 50% des établissements également, des problèmes de chauffage dans 50% aussi des établissements. Donc on a une situation à peu près similaire. D'où je me permettais de reprendre la liste pour faire ce parallèle appuyé. Et puis l'autre comparaison qui nous permet de dire c'est finançable, c'est Mayotte. Et Mayotte, c'est pas n'importe quel département, c'est le département le plus pauvre de France Outre-mer. C'est le département où a exercé, où a officié le nouveau conseiller à l'éducation de Matignon, qu'on va rencontrer mercredi prochain, puisque...
Voilà, l'ancien recteur du Val-de-Loire.
Qui est aussi, exactement, ancien recteur de Val-de-Loire.
Qui était venu dans l'émission.
Tout à fait, et qui, quand il était
plus son nom.
À Mayotte, a fait un plan d'urgence pour les écoles. Et donc, pour nous, ça nous intéresse hautement, puisqu'on peut les faire les parallèles avec la situation de la Seine-Saint-Denis, la situation des écoles mahoraises. Et donc, voilà, ce qu'on réclame, c'est l'égalité et qu'on puisse, nous aussi, bénéficier de cette enveloppe spéciale.
Alors, on parlait du bâti scolaire. Et évidemment, des lycées avec Blaise Sandra. Je ne sais pas si on a dit que c'était à Sevran, donc une commune du 93, pas extrêmement riche. Mais la personne qui s'occupe de financer tout ça, c'est... Enfin, la personne... Il y a Valérie Pécresse qui est présidente de la région d'Île-de-France, dont c'est la prérogative, je parle, de la région. Et donc moi, j'ai voulu parler à Valérie Pécresse pour avoir un contrepoint, ce que j'ai tout à fait réussi à faire jeudi 4 avril au téléphone, et je la remercie encore de m'avoir consacré du temps. Je ne peux pas passer l'ensemble de cet entretien. Elle est très, très, très mobilisée, Valérie Pécresse. Ça, je pense que ça s'entend. Elle défend son action pour les lycées et les dépenses qu'elle a engagées. Écoutez-la.
On a récupéré en 2016, quand j'ai été élue, un patrimoine immobilier dans les lycées qui était dans un état purement dégueulasse. Et quand je dis purement dégueulasse, ça veut dire 200 lycées en état de vétusté 1 et 2. Et ça touchait en priorité, d'ailleurs, les lycées professionnels. Tout ça, c'est le bilan d'une gauche qui a dirigé la région pendant 17 ans. Donc, la première chose que j'ai dû faire, c'est un plan d'urgence pour rénover tous ces lycées, ces 200 lycées vétus. Mais en plus de ça, la gauche, qui toujours gérait la région, n'avait pas prévu que les enfants du baby-boom de 2000, 2001, 2002, 2003 allaient avoir 15 ans en 2015, 2016, 2017, 2018, donc ils allaient arriver au lycée. Et en fait, ça voulait dire qu'il fallait en plus 30 000 places supplémentaires dans les lycées d'Île-de-France. 30 000 places. Donc, il me fallait aussi toute une série de lycées neufs. Donc, moi, je me suis retrouvée dans une situation où j'avais tout ça à faire à partir de 2016. En 2017, on a voté un plan d'urgence sur 10 ans, donc jusqu'en 2027, de 5 milliards d'euros. Aujourd'hui, ce plan de 5 milliards d'euros avec la guerre en Ukraine et l'inflation, c'est devenu 6 milliards 6. 6 milliards 6 d'euros de la région Île-de-France en investissement. C'est le troisième plus grand plan d'investissement de France après les Jeux Olympiques et après le Grand Paris Express. Et c'est le seul qui est porté à 100% par une collectivité locale. Je me permets de vous le dire parce que personne ne le dit, mais aujourd'hui, je dépense 1 milliard d'euros par an pour les lycées du public, 1 milliard d'euros en investissement seulement sur l'immobilier, et alors que mon prédécesseur dépensait 350 millions par an. Donc, on a fait x3. Alors, le vrai sujet, et ça, je ne peux pas le nier, c'est qu'on n'est pas au bout du plan. Le plan, il se termine en 2028, à la fin de mon mandat. Donc, on n'est pas au bout du plan. Il nous reste encore 30% des lycées en Seine-Saint-Denis qui n'ont pas été rénovés. Voilà. Mais on en a déjà rénové les deux tiers.
Vous nous parlez de plan d'urgence et c'est justement ce qui est demandé. Ah oui. Alors il faudrait peut-être mais plus d'urgence ou plus d'argent. On a l'impression aussi que les besoins sont énormes. Attendez, je voudrais juste revenir sur un petit chiffre sur la dépense par lycéen. Donc quand un syndicat comme le SNES dit qu'en Ile-de-France c'est 2181 euros et que vous opposez le chiffre 3900, ça veut dire que c'est pas du tout les mêmes chiffres.
Comment ça veut dire que tous les chiffres sont en open data. C'est parce qu'ils comptent pas tout. Ils comptent pas les manuels scolaires gratuits, ils comptent pas les ordinateurs gratuits, ils comptent pas la cantine avec un tarif à 50 centimes pour les plus défavorisés. Ils comptent une toute petite partie de mon budget, c'est tout. Mais la dépense par lycéen, c'est 3900 euros par lycéen. Je sais que on n'a pas tout bien fait puisque tout n'est pas encore réparé. Mais c'est pas une question d'argent, en fait. C'est une question de moyens humains. Au moment où je vous parle, j'ai 1000 chantiers. Il y a 469 lycées, 1000 chantiers, 5000 entreprises qui bossent. Alors, c'est vrai qu'il y a des malfaçons, c'est vrai qu'il y a des travaux qui sont rendus en retard, c'est vrai qu'il y a des marchés infructueux parce que les entreprises essayent de nous gruger et de nous faire des tarifs qui sont excessifs. Donc, on est obligé de dire non. Donc, c'est vrai qu'il y a des aléas de chantier. Mais je ne sais pas si vous avez fait des travaux chez vous. Mais si vous avez fait des travaux chez vous, vous savez que quand on fait travailler 10 entreprises chez soi, on a toujours des malfaçons. Donc, quand on en fait travailler 5000 à l'échelle d'une région, c'est sûr qu'on a des ennuis de chantier. C'est sûr qu'on a des problèmes. Donc, c'est que ceux qui font rien qui n'ont pas de problème, en fait. Vous voyez ?
Ça raconte quand même quelque chose sur cette histoire du bâti scolaire. Qui peut faire quelque chose pour que le bâti qu'on commande soit tienne davantage dans le temps ?
Ouais, mais ça, j'ai entendu cette critique. Alors, elle est vraie sur certains établissements et elle est complètement fausse sur d'autres. Vous voyez, en fait, le problème, c'est que chaque chantier est différent. Moi, j'ai des lycées en Seine-Saint-Denis qui sont parmi les plus beaux d'Île-de-France. Voilà, et les plus réussis. Donc,
lesquels, par exemple ?
Bah, si Noisy-le-Grand, Le Bourget, aujourd'hui Marcel Cachin à Saint-Ouen, Épinay, Rosa Parks à Saint-Denis sont des lycées qui nous ont coûté le lycée Sugère à Saint-Denis. Enfin, il y a des lycées qui sont magnifiques. C'est pas une question de moyens. C'est aujourd'hui, c'est une question de stock immense de travaux qu'on m'a mis sur les épaules et qu'aujourd'hui, je suis en train de continuer et d'achever, mais avec des contraintes qui sont effectivement parfois des retards de livraison des entreprises, parfois des marchés surfacturés que je dois déclarer infructueux, donc on perd un an. Quand un marché est infructueux, on perd un an. Parfois des malfaçons, c'est vrai. Mais là aussi, sur les malfaçons, bah, par exemple, on s'est aperçu qu'il fallait pas faire des toits plats. Parce que les toits plats, bah, quand il y a des grosses pluies, ils fuient. J'entends dire qu'on dépenserait plus pour les lycées privés que pour les lycées publics. On dépense 11 millions d'euros pour les lycées privés chaque année en investissement et 1 milliard pour les lycées publics. Donc, on dépense 1,1% de notre budget pour les lycées privés et 99% pour le public. Donc, vous voyez bien que les chiffres qui circulent sont faux et c'est beaucoup de manipulation, beaucoup de désinformation qui sont aussi très politiques, il faut le dire. Mais ça ne n'empêche pas que c'est dur d'être professeur en Seine-Saint-Denis et qu'il y a des urgences éducatives en Seine-Saint-Denis et qu'on est totalement mobilisés pour les régler.
France Culture. Être et savoir. Louise Touret.
Alors moi, je vois presque la lumière du consensus entre Valérie Pécresse et les syndicats du 93 sur le bâti scolaire en région Île-de-France. Mais peut-être suis-je trop optimiste. En tout cas, je voulais revenir avec vous sur les urgences. Julien Régnier, vous êtes professeur de collège. Le collège, c'est le département, hein, on redit. Donc, qui finance le bâti scolaire ? Les lycées, c'est la région. Les écoles, ce sont les communes. Et donc, le collège, le département. Que vous dit Stéphane Troussel, donc président du département, sur ce qu'il peut faire, ce qui est possible pour les investissements, pour être dans des locaux qui sont à la hauteur des enjeux éducatifs?
Bah, d'abord, je voulais juste rappeler quand même que le collège travaille Langevin. Concrètement, nous, on a le piano qui a les pieds dans l'eau, parce qu'il y a deux semaines, en fait, il a beaucoup plu, comme il peut arriver en France, en fait. Et du coup, eh bien, on a une remontée des goûts. Et donc, on a une salle qui est fermée. On a les quatre salles du sous-sol qui sont fermées depuis la rentrée, suite à un orage qu'il y a eu cet été. Et donc, du coup, ensuite, c'est la VMC qui a fait des siennes. Donc, s'il n'y a pas d'aération, du coup, ça moisit. Il y a quand même des élèves qui sont revenus et des professeurs.
que l'air est de très mauvaise qualité. Hein,
exactement.
Quand les murs sont moisis.
Oui, c'est vrai qu'au sous-sol, il est censé y avoir une VMC qui fonctionne au premier étage et au deuxième étage. Bien sûr que là, il n'y a pas d'aération. Et d'ailleurs, c'est souvent pas possible en fait d'ouvrir les fenêtres. Donc, vous voyez, on n'est pas Covid friendly. Mais du coup, effectivement, je pense que il y a un problème dans les collectivités territoriales de péréquation des moyens. Je pense qu'elles sont sous-dotées pour faire ce qu'elles ont à faire, c'est-à-dire les investissements dans le bâti scolaire. J'entends ce que dit Madame Pécresse, ce que j'ai entendu aussi de Stéphane Troussel, le président de la Seine-Saint-Denis, du département, c'est que il lui manque 240 millions d'euros de l'État pour pouvoir faire les bons investissements. Certainement qu'il y avait aussi des problèmes de contrôle par l'administration des marchés publics, de la commande. Il y a des problèmes de malfaçon, etc. Mais il y a aussi l'État qui ne prend pas ses responsabilités et qui ne transmet pas les moyens ensuite aux collectivités décentralisées pour pouvoir assurer la mission républicaine d'égalité sur le bâti scolaire.
Clara Boulet et Sophia Tizaoui, concernant cette répartition des investissements, ça fait beaucoup de savoir aussi, peut-être à ingurgiter concernant le fonctionnement de l'État et de son budget. Est-ce que vous pensez ça vous forme en tant que future citoyenne pour justement comprendre comment tout ça fonctionne? Parce que ce que vous obtiendrez peut-être pour cette lutte pour les lycées, vous ne le verrez pas. Puisque normalement, malgré ces cours manqués, vous êtes censé être dans les études supérieures assez prochainement.
Ouais. Moi, le Clara. Budget, j'ai commencé à en entendre parler déjà au début de l'année, parce que je fais partie du conseil d'administration de mon lycée. Quand j'ai appris les sommes, je ne les ai pas aujourd'hui, mais quand j'ai appris les sommes, c'est pas beaucoup pour faire fonctionner un lycée, pour réparer ce qu'il y a à réparer, parce que en tout cas nous dans notre lycée il y a quand même pas mal de choses à refaire. Bon, là ils se sont attaqués à la peinture, bon il y a quand même d'autres choses plus urgentes comme la toiture, mais bon c'est
ouais,
pas
les plafonds,
voilà, ils ont changé les plafonds, mais bon comme la toiture n'a pas été refaite, enfin l'isolation, quand il a plu là il y a quelques jours, le plafond est de nouveau imbibé d'eau, enfin il est infiltré, donc voilà. Et du coup là prendre tous ces chiffres que je ne retiens pas parce que il y en a beaucoup, mais je me dis plus tard ça va prendre des choses quand même.
Sophia Tizaoui,
En fait lorsqu'on voit que des sommes astronomiques sont dépensées selon Valérie Pécresse, c'est ce qui est probablement vrai, mais qui ne sont pas dépensés au bon endroit, ou pas vraiment dans les bonnes choses. C'est-à-dire que quand on voit que l'État déjà veut faire des économies sur l'éducation nationale pour, je pense, le SNU et les uniformes, c'est là où on se dit que ils ont pas du tout le sens des priorités et que le SNU, on dit pas que c'est mal et les uniformes non plus. On dit juste que en fait avant ça, il y a le 93 et d'autres départements comme le 94 ou le 95 qui ont aussi des lycées aussi délabrés que les nôtres, et que en fait c'est pas du tout la priorité et qu'il faudrait d'abord penser au plan d'urgence avant de penser au SNU, aux uniformes qui sont juste un budget énorme pour l'État qu'ils auraient pu réinjecter dans le plan d'urgence qui coûte beaucoup beaucoup moins cher que tout ça.
Et on peut citer le département 13, Marseille, les Bouches-du-Rhône,
oui.
Avec ses écoles et ses collèges. On en a déjà parlé dans l'émission, parfois dégradés, qui ont fort besoin. Et je suis sûre qu'on va avoir des mails de tas de villes où les besoins sont grands aussi. Je voudrais qu'on parle aussi des groupes de niveau, parce que les groupes de niveau, c'est un sujet qui, aujourd'hui, provoque une grande mobilisation, en tout cas, une mobilisation émission qui regroupe des acteurs inattendus, comme d'anciens recteurs ou DGESCO. Il faut savoir qu'un DGESCO, c'est le numéro 2 du ministère de l'Éducation. Aujourd'hui, c'est Édouard Geffray. Il était venu d'ailleurs pour parler des groupes de niveau dans les 13 savoirs. Donc, 7 anciens directeurs de l'enseignement scolaire ont signé une tribune dans Le Monde. Alors, ces anciens directeurs de l'enseignement scolaire ont servi des ministres de tous bords. Hein. Il y a Jean-Paul Delahaye, Jean-Paul de Gaudemars, Jean-Louis Nambrini, Bernard Tout le monde, et donc Alain Boissineau qui a gentiment répondu à mes questions. Et je lui ai demandé pour commencer quel était le but de cette tribune.
Notre objectif n'était pas de polémiquer, mais il est difficile de ne pas se rendre compte qu'il y a actuellement un très grand désarroi au sein de l'éducation nationale, un petit peu à tous les niveaux. Et il nous a semblé qu'il était important d'essayer de comprendre pourquoi, d'analyser ce qui nous semble être des dysfonctionnements dans la conduite actuelle de la politique de l'éducation nationale. Alors, beaucoup de choses ont été dites depuis quelque temps sur notamment la question des groupes de niveau ou bien des groupes de besoins, tous les problèmes que ça pose, etc. On a souligné aussi, à juste titre, combien il était déstabilisant pour les enseignants de recommencer à chaque rentrée de nouveaux dispositifs en ayant le sentiment que les efforts qu'on avait faits l'année précédente étaient passés par pertes et profits. Enfin, tout ça ne permet pas de les mobiliser. Mais surtout, il y a un point qui nous paraît essentiel. Ce qui se passe actuellement relève d'une volonté de pilotage très centralisée du système, très vertical, très descendant. La ministre a même dit hier que s'il y avait des problèmes dans un collège, elle se faisait fort d'y aller personnellement pour leur expliquer comment faire. Autrement dit, on a un peu l'impression que la ministre, ou plutôt d'ailleurs le Premier ministre, parce qu'on sait que c'est largement lui l'inspirateur de tout ça, le Premier ministre se comporte comme une espèce de super chef d'établissement pour les 7000 collèges de France. Et il y a quelque chose qui est très étrange, puisque depuis maintenant de nombreuses années, on cherche plutôt à mettre en avant l'idée d'une autonomie des établissements, on cherche à les responsabiliser, on cherche à leur faire faire des projets pour les mobiliser. Et là, au contraire, tout d'un coup, on revient à une démarche extraordinairement directive. Et je crois que nous croyons que, d'une part, c'est dangereux, enfin, c'est une mauvaise méthode, et qu'en plus, c'est inefficace, parce que ça ne peut pas fonctionner tant ça méconnaît la complexité, la diversité des situations réelles.
Puisque vous avez signé cette tribune, je pense que voilà, vous pensez que ça peut marcher, que ça peut avoir l'influence.
Notre espoir, c'est que d'une part, il est toujours utile d'essayer de comprendre ce qui se passe. Notre tribune ne cherche pas à être polémique, il ne s'agit pas d'accabler qui que ce soit, mais il s'agit de tenter d'expliquer, de comprendre ce qui fait problème. Et d'autre part, il s'agit de plaider pour une approche beaucoup moins centralisée. Notre sentiment, c'est que l'éducation nationale pâtit de ce qu'on veut régler tous les problèmes, jusque dans le moindre détail, au niveau du ministère, voire au niveau du Premier ministre, voire au niveau de l'Élysée. Et ça n'est pas raisonnable. Il y a des marges de manœuvre, il y a des marges d'adaptation, de réforme, qui existent sur le terrain, dans les établissements eux-mêmes, avec tous leurs partenaires, c'est-à-dire les parents, la société civile, les collectivités territoriales, les établissements, ils sont insérés dans un tissu qui caractérise leur vie quotidienne. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler et cesser de croire qu'on va pouvoir trouver la solution miracle au niveau national et l'imposer ensuite à tout le monde à coup de décret et d'arrêté.
Alain Boissineau, ancien numéro 2 du ministère de l'Éducation. Julien Régnier, professeur d'histoire, géographie et d'EMC dans le 93. Vous nous avez parlé du plan d'urgence pour lequel vous êtes mobilisé au sein de votre collège Travail Langevin. Qu'en est-il des groupes de niveau? Est-ce qu'on peut se mobiliser d'ailleurs sur plusieurs sujets à la fois? Est-ce que c'est clair pour, par exemple, les parents d'élèves? Comment vous en parlez aujourd'hui avec vos collègues enseignants?
Ah bah effectivement, c'est un vrai catalogue des nuisances aujourd'hui contre lequel on se bat dans notre collège et plus largement à l'échelle du département pour le plan d'urgence, mais aussi à l'échelle nationale en fait sur cette question des groupes de niveau. Les annonces de Monsieur Attal puis Madame Oudéa Castéra concernant la mise en place de groupes de niveau au collège en 6e, en 5e, en maths et en français dès la rentrée 2024. Nous, elles nous ont profondément choqués. Bah, d'ailleurs, je pense que c'est la volonté du gouvernement qui appelle cette politique éducative le choc des savoirs. Moi, je me demande quand même qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'en République, on gouvernerait par choc. L'éducation, il me semble qu'elle n'a rien à voir avec les auto-tamponneuses, quoi. Vous imaginez si nous, les profs, on se mettait à secouer nos élèves, à les choquer, pour qu'enfin, ils ou elles se mettent à comprendre ce qu'on leur raconte. Vraiment, je m'interroge quand même sur cette langue gouvernementale. Et puis, c'est ce que vient de dire monsieur le recteur juste avant, hein. Qu'est-ce que c'est que cette façon de passer en force sur les groupes de niveau pour trier les élèves, au mépris de toute la recherche scientifique sur l'éducation qui dit non, c'est pas une bonne idée, au mépris de tous les savoirs accumulés, expérimentés sur le terrain par les professeurs, qui cherchent justement à inclure, à faire coopérer les élèves dans leur diversité pour émanciper tout le monde, au mépris aussi de l'avis des élèves et de leurs parents qui refusent en masse ce tri. Non, voilà,
C'est assez intéressant. D'ailleurs, on en a parlé avec le sociologue François Dubé qui expliquait que si le choc des savoirs mobilisait beaucoup contre lui aujourd'hui, ça représentait un peu une nouveauté il y a 20, 25 ans. Peut-être que les enseignants étaient plus enclins à penser que des groupes de niveau étaient pertinents. Mais je reviens à ma question, Julien Ney, parce que vous ne m'avez pas du tout répondu, même si vous avez pu exposer votre point de vue, et c'est toujours intéressant. Qu'en est-il de la mobilisation? Est-ce qu'on peut se mobiliser sur tous les sujets à la fois? Est-ce que c'est clair pour les parents? Et est-ce que finalement, ça ne va pas être, alors on peut dire révolution permanente si on veut être positif, romantique et se référer à des âges politiques peut-être un petit peu lointains. On peut aussi dire la grève perpétuelle, l'agitation continue et la scolarité toujours un peu bousculée par ces mouvements de contestation.
Mais il y aura un autre moyen très simple, en fait, d'éviter la grève. C'est nous qui travaillons, c'est nous qui décidons. Voilà un mot d'ordre qui, justement, est en train d'émerger en ce moment dans nos luttes. Ben, très concrètement, on pourrait faire les politiques éducatives avec des conventions citoyennes où les usagers, c'est-à-dire les élèves, les parents d'élèves ou les travailleurs, avec la représentation syndicale, travaillent tous ensemble à l'élaboration des politiques publiques qui les concernent. Or, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout une option démocratique qui est finalement sur la table. C'est poussez-vous de là, je passe en force. Donc concrètement, nous, on est obligés de montrer un rapport de force par la grève. Et effectivement, les parents ont très bien compris à la fois le problème du bâti, le problème des moyens humains, ça fait partie du plan d'urgence 93. Et ils ont très bien compris aussi...
Donc ça, c'est pour répondre à ma question.
Exactement. Ils ont très bien compris aussi ce choc des savoirs, ce tri des élèves. Et la majorité n'en veulent pas. Bien sûr, sur le WhatsApp, des débats entre parents
aussi,
là-dessus.
Dans la réalité de l'éducation aujourd'hui, le fait que parmi les citoyens les plus privilégiés, les CSP+, comme on les appelle, mais c'est des nomenclatures qui comptent dans l'éducation, puisqu'on classe les établissements par IPS, indice... de positionnement social. On sait que donc chez CSP+, de plus en plus de familles se tournent vers l'école privée. Et oui. Donc font un certain choix aussi, dont on ne sait pas s'ils vont finalement appliquer, eux, la réforme du choc des savoirs et les groupes de niveau.
Mais ça rejoint votre question tout à l'heure. Est-ce qu'il faut cacher les problèmes, mettre sous le tapis, puis déployer les ballons, démarrer la fanfare et faire comme si de rien n'était ? On peut pas le faire. Justement, on se bat dans le 93, mais même à l'échelle nationale, vraiment pour une éducation bien dotée. Et on a chiffré combien ça coûte. On a expliqué combien de moyens humains on a besoin. Et donc maintenant, il faut justement négocier avec le ministère. C'est le processus dans lequel ce mouvement est, avec l'appui de l'intersyndicale qui est bientôt reçu par différents ministères. Eh bien, effectivement... mettre en place les moyens pour une bonne éducation.
Clara Boulet, vous avez manifesté contre les groupes de niveau l'autre jour quand on s'est parlé au téléphone. Vous étiez en partance vers une manifestation et je vous ai parlé des groupes de niveau et oui. vous en faites tellement. En quoi ça vous concerne alors que vous êtes...
Alors, moi, ça ne me concerne pas directement. Ça concerne plutôt les collégiens. Ben, moi, je pars du lycée là, dans quelques mois. Du coup, c'est vraiment un tri qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de trier les élèves. Alors, même s'ils disent que ce n'est pas la classe des nuls, la classe des moyens et la classe des très bons, c'est faux. Parce qu'on sait tous que il y en a des plus forts, il y en a qui ont plus de difficultés. Par exemple, des maths. Moi, les maths, c'est pas du tout mon truc. Je déteste les maths, mais je m'en, quand je faisais des maths, je m'en sortais grâce aux personnes qui avaient un meilleur niveau que moi et qui m'aidaient. Et pareil, en français, moi, je suis très bonne en français, il n'y a pas de souci. Et j'aidais les personnes qui avaient plus de difficultés. J'ai une copine qui est allophone et je l'aidais constamment en français. Et je trouve que c'est comme ça qu'on évolue, qu'on augmente ses notes. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que...
Vous avez progressé en aidant les autres.
Que j'ai progressé. Après, peut-être selon eux, les élèves ne sont pas... Enfin, ils ne fonctionnent pas tous pareil, mais bon, en tout cas, dans ma classe,
alors,
c'était comme ça.
On ne sait pas si ça fonctionne globalement aujourd'hui, complètement dans l'école française, au vu de ces résultats. C'est une autre discussion qu'on pourra avoir dans d'autres émissions et je crois qu'on a déjà un petit peu eu. Concernant cette politisation, enfin, je ne sais pas si vous appelez ça politisation, Sophia Tizaoui, souvent quand les jeunes, et particulièrement les élèves, s'engagent, on dit qu'ils sont récupérés, qu'ils sont manipulés. Je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, vous souriez. Qu'est-ce que vous répondez?
Alors déjà, on a été accusés d'avoir été manipulés par Louis Boyard, qui n'avait jamais pris contact avec nous auparavant, jusqu'à...
Donc Louis Boyard, c'est un député ancien syndicaliste lycéen.
Exactement, donc on a été accusé d'avoir été manipulé par lui, sans même avoir contact avec lui. Et c'est juste après ça qu'on a pris contact avec lui, parce qu'on s'est dit, apparemment on est manipulé par quelqu'un à qui on ne parle pas, donc on doit aller lui parler. Oui. Et il nous a apporté son soutien. Donc je pense que notre jeunesse est de plus en plus engagée, mais pour ma part en tout cas, j'étais engagée sans même le savoir. C'est-à-dire que j'ai commencé à constater ce qui n'allait pas, et j'entendais les élèves parler d'un blocus, etc. Alors, il faut savoir que moi, je ne suis pas arrivée dès les premières semaines du blocus, je suis arrivée 2 semaines après, parce que je voulais me renseigner sur ce que c'était. Et une fois que j'ai compris pourquoi ils se battaient et que cette cause, tout simplement, me tenait à cœur, parce que ça nous concernait, nous d'abord, et les générations d'après, qui sont les citoyens de demain, on s'est dit que, on va s'engager, et oui, on va se battre contre ce gouvernement qui nous ne donne pas la possibilité de devenir pleinement citoyens, comme nous devrions l'être.
Est-ce que c'est facile d'entraîner des lycéens dans votre mouvement? Comment ça se passe, en particulier à Blaise Cendrars? Et d'ailleurs, est-ce que la vidéo TikTok, ça a été un bon moyen aussi de faire rejoindre des élèves à votre cause? Qui veut répondre, Clara ou Sophia?
La vidéo TikTok, on l'a fait... on s'est dit... Enfin, j'ai pas participé, mais quand on m'a expliqué pourquoi, c'est qu'ils avaient vu une vidéo du lycée Louis-le-Grand qui, faisait la même chose, mais en montrant tout ce qu'il y avait de positif chez eux.
Ouais, parce qu'ils ont un musée.
Du coup, ils ont un musée, ils ont des beaux murs, etc. Et nous, on s'est dit, pourquoi
faire... C'est vrai que c'est très beau.
Oui, c'est très beau. Pourquoi pas faire la même chose, mais en dénonçant de manière assez humoristique ce qui se passe. Et c'est vrai que ça a pris beaucoup d'ampleur. Et c'est comme ça que moi, déjà, ça m'a permis de comprendre pourquoi ils se battaient. Et ça a aussi... permis à d'autres lycées de se réveiller, comme on a pu voir à Janzay, on a eu aussi Olympe de Gouges, et plein d'autres, Montreuil, etc. Ouais. Et c'est vrai que suite déjà à ce TikTok, nos profs ont été convoqués par la DSDEN, parce que c'était un moyen de répression, et de leur dire qu'ils ont été accusés de nous avoir manipulés déjà, les élèves dans le TikTok, ce qui était faux.
Oui,
ce qui est faux, parce que déjà c'est les élèves qui tiennent le compte. On a juste demandé la participation des profs qui ont accepté. Et de plus, ils ont été accusés de sortir leur droit de réserve alors qu'ils ont juste énoncé des faits factuels et rien de plus.
Je précise juste que si je connais Louis Le Grand, c'est parce que j'ai été invitée à des événements à Louis Le Grand, comme je connais quelques lycées du 93, comme le lycée Sugère, parce que on avait fait des émissions de France Culture là-bas. On ne peut pas connaître tous les établissements. Louise Paternoster, concernant cette mobilisation, plan d'urgence, donc on a commencé à en parler au mois de décembre, elle a vraiment pris forme en février. Est-ce que ça pourrait servir de modèle, alors pour le futur, pour d'autres mobilisations ou pour d'autres départements?
Oui, alors quelques petites précisions. Il faut savoir qu'on a pensé la mobilisation du plan d'urgence comme aussi une réponse au choc des savoirs. Parce que le choc des savoirs, il promet moins d'écoles pour nos élèves qui, dans nos départements qui concentreront les difficultés en français, en maths en particulier. Ça, c'est le rapport parlementaire qui en a fait état. Et on a 17% de nos élèves qui n'ont pas le brevet. Donc on sait que derrière, il y a des élèves qui vont sortir plus tôt et qui vont être directement employés par le patronat local. Et pour nous, c'est surtout pas ce qu'on souhaite à nos élèves. Et puis aussi parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a le choc des savoirs. Nous, nos élèves, ils ont le choc des plafonds qui leur tombe sur la tête. Ils ont aussi les chocs thermiques parce qu'on a des passoires thermiques.
Vous avez le choc de la formule, continuez. Voilà.
Mais alors, oui,
c'est important.
C'est vrai que, comme disait Julien, ce terme de choc, il nous a un peu interpellés. On a aussi le choc tout court parce qu'on a des classes trop petites et il y a des collègues qui nous disent qu'ils se cognent en fait contre les tables et qui ont des bleus. Et puis on a aussi le choc sanitaire parce que, comme ça a été dit à plusieurs reprises, on a des problèmes d'humidité et les problèmes d'humidité, c'est pas un léger problème puisqu'il y a eu un rapport de Santé publique France en fin janvier dernier qui faisait état que l'humidité était le deuxième facteur d'incidence sur l'asthme précoce. C'est 30 000 élèves. En plus des polluants liés au col qui sont présents dans les meubles, pour être un peu précise.
Au col des meubles, donc qui collent les tables et les chaises. Hein.
Voilà,
on parle d'élèves comme... de maternelle, hein. Les vôtres ont entre 3 et 6 ans.
Exactement, et comme on a ces problèmes aussi d'aération, stores défectueux, fenêtres défectueuses, etc., etc. Problème de chauffage qui fait que c'est difficile d'aérer quand il fait que 14 degrés. Voilà, et donc on a de ça. Et une précision sur les suites. Déjà, on est très contente d'avoir, par la force de notre mobilisation, obtenu l'audience à Matignon. Très contente aussi d'être, le 15 avril, reçue par Madame Belloubet en personne. On sent qu'il y a des choses qui avancent. On sait que le dossier Seine-Saint-Denis est devenu un dossier prioritaire entre les mains à la fois de Matignon, mais aussi de la rue de Grenelle. On espère bien
obtenir quelque chose. Donc
la lutte paye.
À vos yeux.
Il y a déjà eu quelques annonces qui ont été faites par Madame Belloubet aux élus quand elle les a rencontrés à la fin du mois dernier, où elle disait voilà sur les postes d'enseignants, mais sur également les postes de remplacement, peut-être qu'il y a quelque chose qui serait fait. Même chose du côté de Matignon, donc on attend les choses. Et on sait aussi qu'on inspire d'autres départements, puisque notre questionnaire, notre consultation, elle a été demandée par plusieurs collègues de plusieurs départements.
Ça répond à ma question.
Voilà. Mmh. Et on a également la FCPE, donc la première organisation de parents d'élèves, qui a également demandé cette consultation pour la relayer dans toutes ses antennes départementales.
Donc la consultation qui était le point de départ, hein, qui a pris un mois à la rentrée pour mobiliser en Seine-Saint-Denis. Donc voilà une méthode. Il y a encore plein de sujets qu'on pourra aborder sur la licence qui serait suffisante pour passer le concours d'enseignant. Vous pensez que ça peut convaincre des gens de devenir enseignants? Parce que c'est la grosse urgence aussi d'avoir des remplaçants, d'avoir des enseignants tout court.
On est d'accord. Nous, dans le 93, on a perdu 1300 postes faute de recrutement, faute de candidats. Donc c'est clair que c'est une urgence. La CGT, on est favorable au recrutement au bac plus 3, donc à la licence, mais avec 2 ans payés à temps.
Alors que là, c'est 900 euros la première année et 1400 de l'autre. Mais sur l'aspect licence, vous êtes d'accord?
Alors, ça, c'est les revendications de la CGT. 2 ans payés comme un enseignant et au support pour lequel on cotise. Mais alors, nous, c'est intéressant le 93 parce qu'on a déjà expérimenté ce pré-recrutement à la licence, en fait. Donc, il y a eu 500 postes qui ont été budgétés sur le premier rapport de 2018. Qui faisait état des inégalités. Donc, il y a eu ces 500 pré-recrutements. Et en fait, ça n'a pas fonctionné. Et en particulier en M1, en M2, parce que la rémunération, elle était, je vous laisse deviner, 900 euros. Donc, ça n'a pas fonctionné.
Ah, bah, donc on a fait.
On a déjà expérimenté.
L'expérimentation. En tout cas, on verra ce qu'il en adviendra et on en reparlera dans Être à savoir. Merci beaucoup à tous les quatre de nous avoir parlé de votre actualité et vos luttes qui sont aujourd'hui la réalité de l'école et particulièrement en Seine-Saint-Denis, le département d'où vous venez. Merci à Avril Ventura qui collabore à la préparation de cette émission, à toute son organisation, à Perret Legras pour la réalisation et à Guillaume Fichet qui était à la prise de son ce soir.